Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous économique du Cercle Turgot. Et ceci avec nos deux experts, membres du Cercle, Nicolas Bouzou, qui est président d'Asterès, économiste et chroniqueur, et qui d'ailleurs se fait remarquer par ses talents de journaliste sur l'antenne de Canal, l'autre Canal qui n'est pas académique, celle-là, en interviewant les présidentiables. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Louis.
Et par ailleurs, donc, Pierre Sabatier, qui est le président de PrimeView, et qui est aussi administrateur du Cercle Turgot. Messieurs, bonjour, heureux de vous recevoir.
Alors, bonjour.
Aujourd'hui, le thème que nous avons retenu touche à, on va dire, les oubliés de la campagne en termes de problématiques, c'est-à-dire la compétitivité et les dépenses publiques. En effet, moins d'un tiers des Français, selon plusieurs sondages, pensent que les candidats à la présidentielle apportent réellement des réponses à leurs problèmes. Le fait est qu'à quelques rares exceptions près, la principale convergence des propositions des présidentiables porte sur la volonté d'alourdir la fiscalité sous toutes ses formes, les impôts, les taxations, et de préférer nettement la punition à l'incitation pour les Français désignés à l'opinion comme bouc émissaire, les riches, mais pas seulement, les entreprises et autres profiteurs, en tout cas qualifiés comme tels, exilés fiscaux ou dirigeants. Le fait que le taux de prélèvement en France, 43,8%, en progression de 1,3 point en 2011, soit l'un des plus élevés de l'OCDE et atteigne des niveaux confiscatoires, pas plus que le déficit abyssal du commerce extérieur, près de 70 milliards, ne semble devoir constituer une priorité. D'autant que les comptes publics paraissent se redresser plus vite que prévu, 5,2% en 2011 du PIB contre 5,7% anticipé, entraînant une forme d'atténuation de la perception de la dette française qui enfle encore, néanmoins, atteignant des sommets himalayens, près de 86% du PIB. C'est donc dire que le diagnostic sur les handicaps majeurs de la France ne souffre que de peu de contestation chez les économistes. Il mesure les défis qui sont devant le pays. La compétitivité de la Maison France et de ses entreprises et ses dépenses publiques, de 56% très supérieure à la moyenne de l'OCDE dans tous les compartiments, retraite, prévoyance, santé, éducation. Paradoxalement, si ces deux axes sont parfois abordés par les candidats, c'est rarement en termes de priorité majeure et bien souvent sous forme de trompe-l'œil. Alors messieurs, on va essayer de voir en quoi ces deux éléments, ces deux thèmes sont majeurs pour l'avenir et les défis de l'entreprise France. Et pourquoi, selon vous, Nicolas, ces thèmes ne sont pas prioritairement abordés par les candidats ?
Pourquoi ils ne sont pas prioritairement abordés ? Je le regrette comme vous, mais à vrai dire, je ne suis pas sûr d'avoir une explication. Voici, l'explication, c'est sans doute à rechercher de notre côté. C'est sans doute qu'on n'a pas réussi à faire suffisamment de pédagogie pour expliquer qu'il s'agissait là de sujets importants et au fond de notre avenir. Mais c'est vrai que cette question de la compétitivité, à mon avis, elle est très mal abordée. Et comme souvent, elle est abordée de façon binaire. C'est-à-dire que vous avez finalement deux grandes postures dans la classe politique et même parmi les candidats à l'élection présidentielle. Vous avez ceux qui considèrent que c'est avant tout une question de coût et donc il faut maîtriser les salaires, diminuer les charges patronales, ce qu'on appelle la TVA sociale. Bon. Et puis vous avez ceux qui considèrent que ce n'est pas du tout une question de coût, mais que c'est une question d'innovation et de formation. Et en réalité, c'est les deux. Et c'est ce qu'ont montré tous les travaux, notamment ceux qui ont été faits par Rexecode, ceux qui ont été réalisés par notre ami Christian Saint-Etienne, sur ces questions-là, c'est qu'il faut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'on a une problématique de compétitivité, notamment par rapport à des pays qui sont des pays comparables aux nôtres. Je pense à l'Allemagne, bien évidemment, dans lequel on voit bien que le coût unitaire du travail a évolué de façon défavorable à la France. Et c'est pour ça que moi, je soutiens, par exemple, une mesure comme la TVA sociale, hein, qui vise à diminuer les charges patronales. Et en même temps, on a bien évidemment une problématique d'innovation, parce qu'on est au fond au début d'une nouvelle révolution industrielle, hein, qui est celle non pas seulement de l'informatique, mais aussi de la biologie moléculaire, du séquençage du génome, des énergies renouvelables, bien évidemment. Et ça, c'est moins une question de coût qu'une question d'intelligence et de capacité à transformer cette intelligence en exportation et en emploi. Donc il faudrait aborder ces deux questions de fond.
Alors, ce silence des politiques sur ce sujet, cet évitement, selon notre confrère le Nouvel Économiste, frôle pour eux le déni et l'insouciance. Il répond certainement à une logique, c'est-à-dire de ne pas effrayer aussi l'électorat.
Oui,
nommer les axes et l'ampleur des remises en cause à réaliser serait suicidaire, dit-on. Vous pensez que c'est le cas ?
Oui. Et je crois que vous avez tout à fait raison dans votre éditorial, Jean-Louis, de lier cette question de la compétitivité à celle de la dépense publique. Alors ça, c'est évidemment un sujet qui est très politiquement incorrect, ou en tout cas ma façon de l'aborder est peut-être politiquement incorrecte, mais la dépense publique, elle pèse en grande partie sur la compétitivité, parce qu'elle pèse sur la fiscalité et sur le coût du travail. Et c'est pour ça que si on veut avoir une réflexion sérieuse sur les questions de compétitivité, on ne peut pas s'exonérer d'une réflexion sérieuse sur les questions de dépenses publiques. Et la dépense publique en France, ça n'est que marginalement la dépense des collectivités locales ou la dépense de l'État ou le nombre de fonctionnaires. C'est avant tout la dépense sociale. Et c'est pour ça que les sujets qui devraient nous mobiliser intellectuellement pendant cette campagne, c'est les retraites, la maladie, le chômage, bien évidemment. Et en effet, on n'en entend pas parler. Mais si vous voulez, si on veut avoir un raisonnement sain sur ces questions, il faut partir de la dépense publique et de la dépense sociale pour en arriver ensuite à la compétitivité.
Oui, d'accord. Donc les deux sujets sont directement liés. Pierre Sabatier, et alors, on peut aussi toujours espérer qu'il y a une baguette magique qui brusquement va apparaître, comme pourraient le laisser entendre les dernières statistiques selon lesquelles la croissance française a été moins ralentie que prévu. Et d'ailleurs, l'OCDE, de son côté, ne se prive pas de remarquer que seule une amélioration durable de la croissance permettrait le renforcement des finances publiques et la réduction de la charge de l'endettement public et privé. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est sur ce scénario, Pierre Sabatier ?
Alors, je dirais simplement qu'on est d'abord dans le scénario où le bonheur est relatif. Et c'est aussi vrai dans nos économies, pour les économistes, pour les hommes politiques, etc. Après une année 2011 qui aurait été traumatisante pour tout le monde, à savoir nos concitoyens, mais d'abord aussi les économistes, puisqu'on n'avait pas vraiment vu arriver la crise de la zone euro telle qu'elle est survenue. Traumatisante pour les investisseurs, traumatisante également pour les hommes politiques qui se sont vus dicter encore plus qu'auparavant, je dirais, leur planning de réforme. Et ils ont dû réformer à marche forcée sur des choses qu'ils parfois ne comprenaient pas et encore moins qu'ils assumaient derrière. Donc la réalité, c'est que non, je ne crois pas simplement que le sursaut de ce début d'année-là traduise le retour d'une croissance suffisante qui pourrait amener au plein emploi, chose nécessaire pour faire face, comme le disait Nicolas, à l'augmentation structurelle des dépenses sociales. Derrière tout le débat politique qu'on entend aujourd'hui, on oublie la seule chose qui importe au final, c'est savoir quel impact aura le vieillissement de nos populations sur ces dépenses sociales, mais au-delà des dépenses sociales, sur les systèmes de prise en charge de fin de vie, savoir les retraites et l'augmentation de la santé. Peut-être que si nous avons manqué de pédagogie, il est là, on se disperse trop peut-être sur également l'éclatement de l'euro, ses conséquences néfastes, l'apocalypse ou non. La réalité derrière, c'est que l'Europe est sur une trajectoire démographique qui rendra le chemin extrêmement compliqué à tracer vers simplement une économie qui se stabiliserait ou croîtrait à un rythme relativement lent. Donc derrière ça, la première chose qu'il faut bien souligner, c'est que nos vieillissements de population vont rendre insoutenable le poids des retraites et le poids, je dirais, du maintien en vie aujourd'hui, puisque nous sommes les champions du monde du maintien en vie, et tant mieux. Voilà, mais tout ça pose une question mathématique. Comment on finance tout ça à terme lorsque la cohorte des baby-boomers arrive à peine à l'âge de la retraite, à l'âge de la cessation d'activité? Je rappelle un chiffre qui est peut-être le plus important demain. L'espérance de vie, certes, augmente dans nos pays, mais l'espérance de vie sans handicap augmente relativement peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, je dirais, le coût de la prise en charge ne cesse d'augmenter aujourd'hui dans nos pays. C'est clairement insoutenable au regard des fondamentaux, d'autant plus quand vous avez un problème de chômage chez les jeunes et un problème de chômage tout court dans nos pays. Donc la réalité, c'est que la seule question à se poser, c'est comment on finance les systèmes de prise en charge. Et là, on ne parle pas du problème de déficit primaire actuel, qui est presque, je dirais, encore une fois, une marotte qu'on utilise et qu'on secoue pour éviter de parler des problèmes structurels. On parle parce que le problème des déficits primaires, c'est quoi? C'est 6% d'économie pour l'ensemble des budgets et des dépenses publiques en France pour revenir à l'équilibre. L'équilibre entre recettes et dépenses publiques. C'est faisable par n'importe quel chef d'entreprise aujourd'hui. On demande de serrer un tout petit peu les boulons pour demain avoir des excédents, un équilibre de dépenses publiques. C'est ça la question, c'est faisable. Mais demain, ce qui n'est pas faisable, c'est qu'au regard du vieillissement de la population, la trajectoire est insoutenable en termes de dépenses sociales et de dérive des dépenses sociales. Mmh. Dans dérive, il n'y a pas de morale. Encore une fois, là aussi, on place toujours la problématique des dépenses publiques sur le thème de la morale. Non, c'est un problème mathématique, économique. Nous avons construit des modèles de société dans les années 60, avec des populations qui étaient structurellement jeunes, une pyramide des âges bien dessinée.
La répartition, d'ailleurs, en est l'exemple.
Absolument. Aujourd'hui, tout s'inverse. C'est voilà. Ça, la réalité. La réalité, c'est qu'on a eu qu'à gérer un système mis en place dans les années 60, et nos hommes politiques, tout comme les chefs d'entreprise également, n'ont eu qu'à gérer une situation dont ils ont hérité. Aujourd'hui, c'est la fin. On ne pourra plus gérer une situation parce que mécaniquement, mathématiquement, ça ne passera plus. Il est temps, et malheureusement aujourd'hui les discours ne montrent pas cette chose-là, mais il est temps de reprendre des décisions et de redessiner des directions claires et objectives qui permettront justement de construire un modèle de société qui soit pérenne, parce qu'aujourd'hui il n'est pas pérenne.
Donc place aux politiques qui décident, donc le politique devrait être de retour. Une tendance à l'augmentation des dépenses, d'ailleurs les prévisionnistes annoncent que si on ne touche à aucun bouton, le trou de la sécurité sociale passera en gros de 10 milliards à 20 milliards à l'horizon 2020. Donc c'est déjà encore une indication supplémentaire. Mais je reviens d'un mot avec vous, Nicolas Bouzou, sur la compétitivité pour l'industrie française qui est quand même sur le déclin depuis 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas là, derrière ce déclin, je rappelle quelques chiffres, 22% de part de PIB en 2000, 16 en 2020, une balance excédentaire de 11 milliards en 2000, déficitaire de 32 milliards en 2010, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là, selon une analyse qui peut être envisagée, une erreur stratégique, on va dire, du modèle français qui a consisté à considérer qu'on pouvait remplacer la compétitivité industrielle par les services? Or, les services ne s'échangent pas, ce sont les biens industriels qui s'échangent.
Écoutez, peut-être Jean-Louis que j'aurais tendance à vous trouver un peu sévère. C'est-à-dire, évidemment, les chiffres que vous donnez sont factuellement justes. Mais il me semble que depuis 10 ans, on a quand même mis en place des éléments intéressants d'une politique de compétitivité, en particulier dans le domaine industriel. Les pôles de compétitivité, bon, on peut critiquer, il y en a peut-être trop, mais je veux dire, c'est quand même une démarche qui est extrêmement saine, et ce sont des dispositifs qui se sont mis en place avec beaucoup de bonne volonté et extrêmement rapidement sur beaucoup de territoires. L'extension du crédit impôt recherche, alors là aussi on peut dire, oui, mais ce ne sont pas forcément les secteurs les plus innovants qui en profitent, mais il est clair que ça a un impact intéressant sur les dépenses de recherche et développement. L'autonomie des universités, la réforme de la taxe professionnelle, alors là aussi, on pourrait dire, oui, mais finalement, c'est une réforme à minima, et certaines entreprises, notamment dans les services, payent ce que les industriels ne payent plus. Bon, tout ceci est vrai, mais il me semble, en tout cas, qu'on a au moins une prise de conscience et qu'on a mis en place des outils. La difficulté, c'est que, si je prends l'exemple des pôles de compétitivité, entre le moment où vous mettez en place un pôle de compétitivité et le moment où ça se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, vous pouvez avoir 10 ou 15 ans. Parce que c'est ça la difficulté avec les politiques d'innovation, c'est que ce sont des politiques de très long terme. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, on a plutôt fait des bonnes choses ces 5 ou 10 dernières années, et surtout, ne relâchons pas l'effort, puisque vous avez raison, la grande erreur intellectuelle de la France ces 20 ou 30 dernières années, ça a été de considérer au fond que la croissance venait de la consommation. Et ce qui est tout à fait faux, la consommation, c'est la résultante des salaires, c'est la résultante de l'activité, c'est la résultante de la croissance économique, en réalité, de notre capacité à produire des biens qui vont trouver preneurs sur un marché, que ce soit sur le marché français ou à l'extérieur.
Alors, je me tourne vers Pierre Sabatier sur le sujet de la réindustrialisation. Est-ce que c'est quelque chose de très compliqué? Alors, Nicolas Bouzou vient de nous dire que, bien évidemment, il faut donner du temps au temps. On ne peut pas structurellement faire un retour à la normale et retrouver sa base industrielle en claquant des mains. Mais par contre, il faut peut-être tout simplement renforcer ce qui a déjà été entrepris, accélérer et peut-être aussi lever un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les chefs d'entreprise et surtout recréer un lien de confiance entre les financiers en les associant plus au projet plutôt que de les mettre à l'index. Quel est votre avis?
Alors oui, sur la question du modèle porté par la demande ou par l'offre, là, j'aimerais simplement qu'on ne soit pas complètement binaire, à savoir que la réalité est entre les deux,
oui,
bien entendu.
Vrai.
Il faut bien sûr une politique de demande, comme on l'a soutenue, je dirais, depuis les 30 dernières années. On l'a trop fait, c'est évident. Et je dirais le meilleur des exemples, c'est qu'on l'a trop fait, notamment dans le secteur de l'immobilier. Je prendrai quelques secondes pour en parler, parce que c'est fondamental. On a fait, je dirais, une politique tout à fait court-termiste et qui revient là encore à ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant, savoir que nos politiques sont trop court-termistes. Parfois, vous savez, il faut semer pour récolter plus tard. On ne récolte pas tout de suite et on est exactement dans ce processus. En soutenant systématiquement la demande en biens immobiliers, on a fait monter les prix. En montant les prix, on augmente les inégalités sociales qui sont de moins en moins soutenables. On augmente le chômage structurel, puisque lorsque vous êtes propriétaire de votre maison ou lorsque vous devenez, voilà, vous voulez le devenir et vous voulez loger et trouver une nouvelle habitation, mais il faut vous payer de plus en plus cher, ce qui fait qu'en fait, ça limite les migrations naturelles des endroits où vous n'avez pas de croissance vers les endroits où il y a de la croissance. Donc tout ça est, je pense, une grave erreur et la meilleure illustration des dérives de nos politiques de soutien systématique à la demande. Donc le mauvais, c'est le systématique à la demande. Par contre, le soutien à la demande est tout à fait nécessaire, voilà, pour répondre, je dirais, au progrès général de nos sociétés. Bien entendu, derrière, il faut une politique de l'offre beaucoup plus forte, mais on y est. On y est, entre guillemets, on est là encore, je dirais, sur le chemin. À savoir que l'objectif, c'est quand même, entre guillemets, rendre plus intelligents les discours qui peuvent avoir lieu entre la recherche, l'université, les entreprises. Et effectivement, les pôles de compétitivité sont une très bonne chose. Le crédit d'impôt recherche également. Alors peut-être qu'effectivement, il faudrait l'autoriser pour un certain nombre de domaines qui pourraient être jugés prioritaires par rapport à ça. L'autonomie des universités, exactement, on est sur le bon chemin. Pourquoi ? Parce qu'on crée du dialogue. Le problème de notre société, c'est qu'on n'a plus de dialogue depuis trop longtemps. Il faut, je dirais, remettre les intelligences. Il faut que les intelligences, sur le devant de la scène, il faut que les intelligences se reparlent à nouveau. Et aujourd'hui, essayer de rassembler tous ces éléments qui feront la croissance de demain, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut continuer d'investir là-dessus. Et c'est pour ça que les politiques d'austérité, uniquement, c'est une mauvaise chose. Là, j'assume très clairement, derrière, il faut allouer des politiques de croissance, mais des politiques de croissance de long terme, avec un soutien systématique à l'innovation. Attention, l'innovation est une condition nécessaire, pas une condition suffisante. Le Japon en est le meilleur des exemples. Le Japon innove en pourcentage du PIB, encore, c'est le pays qui innove le plus en fait en pourcentage du PIB aujourd'hui. Ouais. Et pour autant, la croissance japonaise depuis 20 ans reste toujours quasiment atone.
Oui, ça ne suffit pas.
Donc, mais ça reste une condition nécessaire.
Alors Nicolas Bouzou, un dernier mot sur ces deux sujets qu'on a liés, compétitivité et dépenses publiques. Les oubliés de la campagne, pour vous, ça a des conséquences lourdes pour l'après-campagne ?
Moi, si vous voulez, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer, c'est que cette campagne électorale, on a fermé les volets avant de commencer la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on prend bien soin de ne pas parler de ce qui se passe autour de nous et de ne pas parler des vraies questions. Les vraies questions, c'est comment on finance notre État-providence. Alors, en effet, pour des raisons de vieillissement, mais aussi parce que l'émergence d'un certain nombre de pays à faible coût de main-d'œuvre, la crise des finances publiques en Europe accentue considérablement la pression sur nos comptes sociaux. Ça, c'est une vraie question. La question de l'emploi, on ne parle pas d'emploi. Les propositions en matière d'emploi, ce sont des propositions d'allègement de charges pour telle ou telle catégorie de la population qui figuraient déjà dans les propositions de campagne électorale de 1988. Donc on voit bien, si vous voulez, que c'est très insuffisant. Et le réveil sera dur parce qu'on va se rendre compte, si vous voulez, le 10 mai. Déjà, je voudrais rappeler un fait très important que personne ne souligne, c'est que le premier grand rendez-vous du prochain président de la République, ce sera le G20 de Mexico. Oui. Et là, on va bien comprendre ce que c'est aujourd'hui que les dynamiques des pays émergents. Parce que les pays émergents, évidemment, sont ceux qui, aujourd'hui, sont en grande partie nos créditeurs. Donc ils ont un véritable rapport de force envers nous. Et puis, on va se rendre compte que le 15 mai, eh bien, le taux de chômage sera toujours élevé, les Allemands seront toujours concurrentiels, ne voudront toujours pas faire les eurobonds, et les Chinois seront toujours en train de monter en valeur ajoutée. Et ces questions-là, on ne les aura pas traitées, mais pourtant, elles continueront de s'imposer à nous après la campagne comme pendant la campagne. Et il faudra bien les régler. Et la vérité, et c'est ma profonde conviction, c'est qu'en réalité, la marge de manœuvre du prochain président de la République, évidemment, notamment en matière budgétaire, sera extrêmement faible. Donc je crains en effet que le réveil soit douloureux.
Un dernier mot peut-être pour Pierre Sabatier, avant de conclure cette émission.
Je suis d'accord, entre guillemets, le chemin sera étroit pour le prochain président de la République. Maintenant, je crois à ce qu'il faut mettre en avant d'abord, et avant toute chose, au lieu de stigmatiser systématiquement des thématiques, c'est la responsabilisation. On rentre dans une ère extrêmement forte où il faudra que l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi bien, je dirais, les chefs d'entreprise, que les salariés, que les hommes politiques ou autres, se responsabilisent. C'est la condition, je crois, nécessaire et qui, cette fois, pourrait être suffisante pour dessiner un avenir plus rose aujourd'hui, puisque pour l'instant, les nuages restent à l'horizon.
Donc, un appel à un retour du politique responsable. Merci, messieurs. Merci. Nicolas. Encore bravo pour vos émissions. Merci Pierre Sabatier, pour tout ce que vous faites au niveau du Cercle Turgot, l'un et l'autre. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.